Bonjour à tous, je suis Philippe Bourlissiot, je fais partie des gens de la société civile, on va dire. On a parlé ce matin de PMO, du Vivagora, de FNE. Je suis le cofondateur d'une autre initiative plus modeste, on va dire, qui s'appelle Science et démocratie. Et on s'est intéressé aux nanotechnologies depuis 2006. En se donnant pour mission de faciliter la participation des citoyens au débat public. Ça veut dire que sur Internet, on a développé un site présentant des articles de vulgarisation sur les nanotechnologies et des espaces de discussion. Voilà. Et dans le cadre du débat national qui a eu lieu l'année dernière, on a invité nos internautes à s'exprimer sur le sujet et ces contributions ont alimenté notre cahier d'acteurs qu'on a remis à la Commission nationale du débat public. Et dans le cadre de ce travail, on a observé, et d'une manière générale dans notre regard sur la participation des citoyens au débat public, j'ai personnellement un regard un peu différent du rôle de PMO, par exemple, sur ce débat public. Alors effectivement, ils ont empêché un certain nombre de séances, mais finalement, comme ça a été dit, ils ont permis aux médias de s'intéresser au sujet. Donc, en empêchant un certain nombre de séances, ils ont permis quand même un élargissement du public au travers des médias. Alors, effectivement, on peut regretter l'absence des médias pendant tout le débat public. Il y a eu des médias qui sont intervenus au moment du lancement, et puis effectivement, après, grâce aux interventions de PMO, le sujet est revenu un peu d'actualité. Et puis, lors de la clôture, l'événement est encore resté assez discret, et c'est finalement un rapport de l'AFSET, si je ne m'abuse, quelques semaines ou quelques jours après la fin du débat public, qui a redonné un gain d'intérêt sur le sujet pour les médias. Voilà. Et donc sur le rôle de PMO finalement, donc un rôle intéressant, même s'il a empêché un certain nombre de séances, je serais un peu, comment dire, directement, simplement, le débat public en lui-même, imaginons ce qu'il aurait été si PMO n'était pas intervenu. Est-ce qu'il aurait été beaucoup mieux? J'en suis pas convaincu parce que j'ai regardé dans le cadre des procédures de la Commission nationale du débat public, il y a une mission une tâche qu'elle se donne, qui est de constituer ce qu'elle appelle le dossier du maître d'ouvrage, c'est-à-dire que le commanditaire du débat public réalise un dossier très complet sur le sujet, un état des lieux des connaissances. Et quand on regarde cet état des lieux des connaissances, il est déjà très très riche et j'ai pas l'impression que ce qui est été dit dans les séances du débat public, les réunions publiques du débat public, n'aient apporté beaucoup d'éléments supplémentaires. Il y avait éventuellement une rubrique très très pauvre dans ce dossier du maître d'ouvrage qui était la section débat public, justement, l'implication de la société civile dans le débat. Et là, je pense qu'effectivement, il y a eu des leçons à tirer au travers du débat public. Il y a eu une autre chose intéressante qu'a apporté le débat public, on en discutait là en pause, ce sont les cahiers d'acteurs qui ont été très nombreux, 51 cahiers d'acteurs. Donc, le cahier d'acteurs, je rappelle, c'est le positionnement que prennent les organisations dans le cadre du débat public. Et un document de 4 pages préformaté qu'on remet à la Commission nationale du débat public, qui l'imprime et qui le met à la disposition du public à l'entrée des séances du débat public pour informer le dit public. 51 organisations, c'est finalement un très très bon résultat parce qu'avant le débat public, ce n'était pas évident que 51 organisations en France prennent position sur le sujet. Ça a un peu donc forcé les choses. Alors le public finalement était un peu un alibi dans cette histoire puisqu'il n'a pas été informé tellement des masses pendant le débat public, mais en tout cas il a mis un peu la pression sur les organisations pour qu'elles prennent position et soient visibles pendant le débat public. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, donc sur peut-être un peu trop longue sur PMO. Ce qu'on voit aussi sur PMO, c'est que, et là j'en viens au sujet de notre table ronde, c'est un groupe de citoyens qui se sont positionnés très tôt sur les nanotechnologies, puisque en 2006, lors de l'inauguration du centre Minatech à Grenoble, donc qui se voulait être le centre, le plus gros centre de recherche en micro et nanotechnologie en Europe. Ce groupe de citoyens a réussi à mobiliser et à manifester lors de l'inauguration. Et parmi les signaux d'alerte qu'ils tiraient, Il y avait un certain nombre de questions d'éthique liées aux nanotechnologies dont on a beaucoup, enfin, qu'on a vu rapidement ce matin, mais à plusieurs reprises, les histoires de flicage généralisé au travers de l'utilisation croissante des puces RFID, l'absence de contrôle sur les recherches dans le domaine militaire, les implants et les possibles les implants cérébraux et les possibles dans le cadre de traitements médicaux, mais avec les possibles les impacts que ça peut avoir en termes de soi, de comportement et de mode de pensée. Et enfin, le dernier qui a été, point qui a été également évoqué, c'est la tendance transhumaniste avec l'homme modifié, augmenté quand on est positif. Voilà, donc ces questions éthiques, aujourd'hui, comment est-ce qu'elles sont intégrées dans le monde de la recherche? C'est le thème de cette table ronde. Et j'ai pour en parler ici donc Jacques Bordet, qui est directeur de recherche au CNRS, qui a travaillé sur les nanotechnologies avec le comité d'éthique du CNRS pendant plusieurs années. Vous avez suivi de près beaucoup, beaucoup de débats. Donc vous allez probablement nous dire comment aujourd'hui cette recherche, cette réflexion est intégrée.
Oui, je vais essayer de vous parler un petit peu en général des rapports entre le monde de la recherche et puis la société et des problèmes qu'on a entendus évoquer ce matin à propos des nanos. Mais les problèmes que posent les nanos sont des problèmes très généraux. Donc ça pourra se transposer finalement un peu à n'importe quel type de recherche qui ont des développements sur la société. En fait, on parle d'éthique, donc je peux effectivement dire ma petite définition très simple. Vous m'entendez? Je parle assez près du micro. L'éthique est simplement la réflexion qui permet de bien vivre ensemble. Ça, c'est l'éthique en général. Qu'est-ce que c'est que l'éthique des sciences et l'éthique de la recherche? Eh bien, c'est comment fait-on pour bien vivre avec la science et avec les utilisations de la science, les conséquences de la recherche. Et ça, c'est indispensable d'y penser, parce que la recherche crée de nouvelles conditions, de nouvelles connaissances, qui crée de nouvelles techniques, qui crée de nouvelles conditions de vie ensemble. Et donc, des conditions auxquelles l'éthique avant n'avait pas forcément pensé. Est-ce que c'est bien qu'on puisse enregistrer l'image de quelqu'un, sa voix? Est-ce que c'est bien qu'on puisse cloner à partir des nouvelles découvertes et de nouvelles possibilités, eh bien, il y a de nouvelles questions posées à l'éthique. Mais une fois qu'elles sont posées à l'éthique parce que les découvertes sont là, c'est peut-être trop tard. Il faut peut-être mieux y penser avant. Et donc, réciproquement, l'éthique interpelle la recherche en disant « Mais attention, vous travaillez là-dessus, vous allez nous créer un monde invivable, vous allez faire quelque chose qui n'est pas forcément bien, est-ce qu'on peut en parler avant ?» Donc l'éthique de la recherche, c'est ça. C'est cet aller-retour entre la recherche qu'on fait et pourquoi on l'a fait et l'impact sur la société. Donc c'est une morale de l'action pour le chercheur. C'est qu'est-ce qu'il est bien de chercher, qu'est-ce qu'il est bien de faire, qu'est-ce que je dois connaître, qu'est-ce que j'ai le droit de connaître, quelle est mon action. C'est-à-dire que c'est au départ un mélange entre la prouesse technique, et vous avez vu pour les nanos, il y a une prouesse technique extraordinaire quand même, les promesses qu'on a entendues ce matin pour la société, et puis la liberté du chercheur de chercher sur ce qu'il veut, cette sacro-sainte liberté, en disant la recherche fondamentale, il n'est pas question de la freiner ou de l'encadrer, sa responsabilité, dont il se dégage souvent, et puis les finalités de tout ça. Pour les nanos, je rappelle qu'au départ, c'était vraiment de la curiosité pure. Ce n'est qu'à partir de la nationale de 99 et de la NNI américaine qu'on a commencé à dire « voilà, on va tout faire avec ça ». Mais au départ, c'était simplement la poussée, la curiosité pure de vouloir aller de plus en plus petit. Et donc, on avait la démarche un petit peu normale du physicien. Je ne dis pas naturel, parce que même la science, elle est dans une culture. Il n'y a pas de développement naturel de la science, c'est un développement philosophique et culturel. Mais il y a en tout cas la question de se poser, est-ce que je peux faire plus petit? Est-ce que je peux comprendre plus de détails? Et ça, c'est une question de curiosité pure qui n'avait pas d'idée d'application au départ. Même si dans le fameux discours de Feynman de 59, qu'on a repris après comme étant un discours mythique fondateur des nanos. Il disait, mais voilà, on peut peut-être faire des petites machines, on peut faire peut-être des, écrire l'encyclopédia universaliste sur une tête d'épingle. Ça, ça a été oublié dans les années 80, on ne pensait pas à ça, on pensait pas du tout à ça. On pensait simplement, on était au niveau micro, et ben, est-ce qu'on peut aller au niveau nano ? Est-ce qu'on peut faire plus petit ? Est-ce qu'on peut voir mieux ? Donc là, il y a un aspect éthique relativement limité dans la mesure où il s'agit de comprendre le monde tel qu'il est, simplement. Donc je passe là-dessus, sur, puisque ça a été largement évoqué et bien évoqué ce matin par le premier orateur, sur les problèmes de finalité qui, là, commencent à être un petit peu inquiétantes, puisqu'il ne s'agit plus de comprendre le monde, mais il s'agit d'agir dessus. Et donc là, la responsabilité est un petit peu différente. Je reviendrai là-dessus, éventuellement. La question éthique pour les chercheurs, c'est qu'il y a des promesses qui sont peut-être des fausses promesses, quand même. Et ça, c'est une question un peu de, pas de malhonnêteté, parce qu'ils sont de bonne foi, mais de responsabilité. Et on a connu ça avec le génie génétique, avec « donnez-nous de l'argent, on va tout vous résoudre » et ça fera des choses extraordinaires, non seulement sur le plan de la connaissance, mais sur le plan du retour économique, selon le discours auquel on s'adresse, c'est la personne, en général aux politiques, puisque c'est des financements dépendent d'eux dans la recherche publique en tout cas, c'est de faire des promesses mirobolantes pour avoir des financements. Et ça, c'est déjà un petit peu une question éthique. En plus, l'autre question éthique, c'est que les scientifiques ont tendance à ne voir que la moitié des choses. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aveuglement sur les méfaits possibles. On ne parle que des bienfaits. Bien sûr, pour avoir de l'argent, et puis pour y croire soi-même, le scientifique, depuis des générations, il travaille pour le bien de l'humanité, et uniquement pour le bien de l'humanité, et ce qu'il fait va être uniquement servir à une sorte de progrès, puisque connaissance égale technique égale progrès, c'est le dogme dans lequel on a vécu pendant des siècles, et qui, depuis les années 90, est sérieusement remis en cause. Donc, une sorte de dénigrement, on balaye du revers de la main le fait qu'évidemment, il y aura peut-être des choses qui ne seront pas bien dans l'utilisation. Le couteau, on pourrait y revenir, si vous voulez, parce que c'est quand même... On me le sort à chaque fois, et on peut en parler. On pourra en tout cas faire face. Le jour où on verra que c'est mal utilisé, on pourra corriger, on mettra un couteau en plastique, on mettra un étui. Donc, il y a cette espèce de double langage des scientifiques aussi, qui est de dire le génome, c'est formidable, ça va tout, on va guérir toutes les maladies, mais attention, si vous allez changer le génome de l'homme, mais non, c'est qu'une molécule comme une autre, donc on a un langage rassurant quand il le faut. Malgré tout, les chercheurs sont obligés de faire des programmes. Et en plus, les politiques demandent des programmes avec des objectifs. Et maintenant, on est dans un cadre largement de science utile. C'est-à-dire que la curiosité pure, elle est réduite de plus en plus à un peu de chagrin, même si elle est absolument indispensable de continuer, parce que c'est peut-être de là que viendra la solution au problème finalisé. Mais en général, les politiques, ils disent, faites-nous un programme qui ait des conséquences économiques, qui ait travaillé pour l'économie de la nation, pour les problèmes sociétaux. Et donc, il y a l'Agence nationale de la recherche qui fait des programmes nationaux. Et donc, quand on dit programme, il y a en général un objectif qui est... Et dans ces programmes-là, on peut distinguer trois niveaux d'objectifs, finalement, trois niveaux de réflexion sur le sens, sur l'éthique. Je suis en train de parler un petit peu en avance parce que il y a donc une sorte, déjà sur le choix des thèmes des programmes, par rapport à ce qui est sur la slide, le fait de choisir la priorité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher sur tout, donc le fait de choisir de chercher sur le sida plutôt que sur Alzheimer ou sur tel procédé d'informatique plutôt que tel autre procédé sur l'énergie, c'est déjà une priorité, c'est déjà une responsabilité éthique. Moi, j'ai été responsable de la stratégie et des programmes du CNRS, donc choisir si le CNRS devait, comment il devait mettre des priorités entre la recherche en sciences sociales, en astronomie, en mathématiques, en biologie, puisque c'est un organisme qui couvre tout. Eh bien, à ce moment-là, comment fait-on ces choix? Et surtout, on se rend compte que ces choix ont un impact sur la société, puisque... si on choisit, et là je rejoins ce que Drexler disait pour les nanos, si on fait un programme qui peut donner lieu à des monstres, il faut peut-être penser en même temps à faire un programme qui améliore la technologie des cages. Bon. Et donc, en gros, c'est ça qui a fait que quand je me suis occupé de priorité au CNRS, après ça a débouché normalement sur les problèmes de responsabilité dans le choix de ces priorités. Par contre, le chercheur, lui, en général, il dit « attention, je fais une découverte, les applications, c'est plus moi ». Ça, ça se discute. Il y a une sorte de ce qu'on appelle la responsabilité continuée, là, qui est... Je sais pas si on... Non, il n'y a pas de souris. Une responsabilité continuée qui fait qu'on est quand même un petit peu responsable de l'utilisation des découvertes qu'on a faites. Mais ça, pour faire passer ça dans la tête des chercheurs, ce n'est pas très facile. Et surtout, quand ils font des découvertes qui ont pour but... pas simplement de comprendre le monde, mais d'agir sur lui. C'est-à-dire, je prends par exemple dans le changement climatique, quand on veut faire des recherches pour le géo-engineering, le changement du climat, eh bien là, il y a quand même un petit peu des questions éthiques à se poser au moment même où on fait la recherche fondamentale. Donc, quand il y a un grand programme comme ça, un programme de recherche en biologie ou de recherche en nano, il y a trois sortes de niveaux de réflexion pour analyser ce programme du point de vue éthique. En général, on présente aux chercheurs le but scientifique, le défi scientifique, aller plus vite, plus petit, comprendre quelque chose, un truc qu'on ne sait pas faire, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça, c'est uniquement le défi scientifique. En général, il s'arrête là, le chercheur. Il voit qu'il y a de l'argent, il voit qu'il y a une promotion, une carrière, une interaction avec un contrat industriel, de quoi payer son instrumentation, et un problème scientifique qui a un os à ronger, et il fonce là-dedans. Après, il y a la finalité sociale du programme. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, effectivement, de prendre le sida plutôt qu'Alzheimer? Pourquoi on a choisi de prendre la télévision portable plutôt que la télémédecine? Et là, c'est une autre raison qui échappe aux chercheurs. C'est une raison politique. Même si les chercheurs sont dans la définition du programme, ils sont impliqués là-dedans, mais ils ne sont pas compétents pour juger du côté impact sur la société, en fait. Donc, souvent, ça va être l'industrie nationale. Par exemple, la télévision portable. Hein, un des premiers projets que Chirac a soutenu quand il a créé l'Agence de l'innovation industrielle, c'était la télévision portable. Bon. Ça a beaucoup d'impact sur la recherche, parce que la télévision portable, ça veut dire qu'il faut miniaturiser, il faut traiter le signal, il y a des mathématiques, il y a la physique du solide, ça draine de l'argent, et ça oriente des chercheurs dans l'industrie, mais dans l'université, dans le CNRS. Mais est-ce qu'on a besoin de télévision portable alors qu'on regarde déjà 5 heures de télévision fixe, hein, en plus? Mais il y avait des industries nationales qui pouvaient en profiter, peuvent se placer sur les marchés, etc. Et donc... Alors, ça peut être ça peut être éclairer une décision politique, parce qu'il y a un problème de santé publique, il y a un problème d'environnement, et donc on répond à une demande de la société. Puis il y a un troisième niveau, quand même, qui est le sens métaphysique, l'avenir de l'humanité, la dignité de l'homme. C'est-à-dire que c'est encore au-delà de la finalité économique ou de santé publique. C'est aussi qu'est-ce que ça changera dans, en gros, la place de l'homme dans l'univers, et la place de l'homme par rapport à la nature. Est-ce que ça aura des conséquences métaphysiques importantes qu'on voit qui arrive avec les nanos, hein, d'ailleurs, sur la rupture de la barrière entre naturel et artificiel, entre l'homme et la nature. Ce qui évolue d'ailleurs par ailleurs pour un tas d'autres raisons. Hein. On considère que maintenant qu'on a été maître de la nature qui était corvéable, merci, on s'aperçoit avec le changement climatique qu'il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il faut considérer la nature différemment. Et aussi... Avec la mondialisation, on s'aperçoit que d'autres civilisations de la Terre sont à prendre en considération et considèrent la nature différemment. Bon, ça, c'est d'autres problèmes. Donc, ces trois niveaux de réflexion sont évidemment présents dans tout ce qui concerne les nanos. Hein. Objectif scientifique, finalité sociétale et sens métaphysique. En gros, les chercheurs, les organismes, ils sont largement au niveau 1. Parce qu'ils participent au périmètre du défi scientifique, quels sont les labos à mettre en place, comment s'organiser sur l'interdisciplinarité, etc. Au niveau 2, sur la finalité, les organismes dialoguent avec les politiques. Il y a la poussée scientifique, et puis après ça, il y a la volonté des politiques, et après ça, la direction générale des organismes, et puis un certain nombre de scientifiques responsables de leur domaine dialoguent, et ils sont bien au niveau 2. Mais au niveau 3, sur le sens métaphysique, en gros, il n'y a plus personne. Il y a bien sûr les philosophes, hein, il y a bien sûr des intellectuels, des philosophes qui y pensent, mais dans l'organisation de la recherche et dans le monde des laboratoires, à part la bioéthique, parce que bien sûr la bioéthique depuis longtemps se pose des questions, et sans ça il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace éthique entre le scientifique et le politique. Quand on se dit aux scientifiques, mais attention, le principe de précaution ou pourquoi choisir tel thème, il dit, ça, c'est du politique. C'est plus du scientifique, c'est du politique. Et il n'a pas de réflexion éthique. Il n'est pas équipé pour ça, il n'a pas été formé pour ça. Et je dirais que l'homme politique aussi n'a pas forcément beaucoup d'éthique. Hein. Il y a une éthique de la politique, bien sûr, mais il ne sort pas, il n'en sort pas, c'est-à-dire que en général, moi, ce que je reproche à la politique pour l'instant, c'est d'être totalement attelé à l'économique. C'est-à-dire que quand vous posez à un homme politique la question, vous soutenez l'innovation. Vous savez, on parle d'innovation, on ne parle plus de progrès depuis longtemps, on parle d'innovation seulement, mais toutes les innovations ne sont pas des progrès. Quand vous dites à un homme politique, un responsable de l'innovation, de programme d'innovation, mais comment vous faites le tri entre les innovations qui sont des progrès et qui n'en sont pas ? Moi, j'ai eu des réponses vraiment publiques d'hommes politiques importants, responsables, qui m'ont dit, pour moi, une innovation qui crée un emploi, c'est un progrès. Point barre. Bon. Donc, souvent, il n'y a même pas d'espace entre l'homme politique et l'économique. Donc, on est dans ce triangle où il y a les scientifiques, les politiques, un côté du triangle, qui avant ne dialoguaient qu'entre eux, tous les deux, pour avoir les priorités scientifiques, l'argent, etc. Depuis une dizaine d'années, il y a un troisième sommet au triangle, c'est la société civile, qui s'invite à la table. Ce n'est plus un dialogue à deux ou à trois, parce qu'il y avait les industriels aussi qui étaient derrière les politiques en embuscade, et les politiques faisaient ce que les industriels voulaient, etc. Et donc, on avait un dialogue un petit peu... Bon, les industriels parlaient directement aussi avec le CNRS pour les problèmes de stratégie, mais disons qu'on avait surtout un dialogue scientifique-politique. Maintenant, la société civile veut parler directement aux scientifiques. Avant, elle parlait aux politiques, il y avait les votes, il y avait un certain nombre d'instances, mais veut parler directement aux scientifiques. Fait plus confiance ni aux industriels pour dire que ce qu'ils vont innover, ça va être forcément bien. Les industriels ont d'autres priorités, hein, c'est le profit. Donc, ils font des innovations qui sont souvent des gadgets. Hein. On a souvent dit nano, utile ou futile. On peut faire de l'utile, on peut faire du futile. Mais souvent, le consommateur mouton est content d'avoir quelque chose simplement qui va plus vite, qui est plus beau, qui est plus clinquant, et des phénomènes de mode, etc. Donc le côté... quand on dit pour les nanos, formidable, regardez, on va avoir, après tous ces milliards d'investissements, un costume qui ne se mouille plus quand on sort sous la pluie. Bon, je trouve ça un petit peu... naïvement, le scientifique va parfois dire ça. Regardez, même Albert Fert, prix Nobel de physique, va dire « Moi, je fais ça parce que, regardez, si je ne le fais pas, les Chinois le feront. » Et PMO, qui était dans la salle, a râlé contre cette... En disant « Nous, de toute façon, on veut pas quelque chose qui aille plus vite, qui soit fait en Chine ou ici. » Donc, il n'avait pas répondu à la bonne question. Hein, et ça, c'était en 2002-2003. À propos de PMO, moi, je remercie PMO. c'est Oui, bien sûr, c'est l'archétype, ça a stigmatisé l'absence de dialogue, de bon dialogue entre les scientifiques et la société civile, parce qu'eux étaient un extrême de la société civile, mais en tout cas, ils ont bien montré que les scientifiques qui avaient cette attitude de dire « on va vous expliquer comment ça marche, et puis vous n'aurez plus peur », ça c'est l'attitude traditionnelle de dire « ah, le génome, etc., bon, on va vous expliquer comment ça marche, c'est parce que vous êtes des ignorants ». C'est pas vrai, c'est pas ça la question. La question est autre, c'est une question de société, effectivement. Quand PMO est venu perturber les assises de Sauvons la Recherche à Grenoble en 2002, à ce moment-là, ils ont été traités d'obscurantistes par les responsables de Sauvons la Recherche. Et après, c'est quand ils ont perturbé l'inauguration de Minatech, bien avant le débat, que Villepin a dit bon, on va faire une conférence de citoyens nationale. Et cette conférence de citoyens n'a pas eu lieu parce qu'il y avait eu avant un tas de conférences de citoyens régionales. Et donc, il a remplacé ça par une journée avec déjà des cahiers d'acteurs à la Villette. Et PMO a eu l'appui de Greenpeace et PMO a posé des questions, a interpellé finalement une certaine fraction du monde de la recherche en disant « mais ce n'est pas la société qu'on veut, vous nous préparez ». Donc il y a eu un effet quand même bienfaisant de réflexion, même si c'était extrême, même s'ils ont dit « on ne veut pas parler », enfin même si on peut discuter des... C'était des gens qui ont posé des bonnes questions, à mon avis. Donc, j'avance un petit peu, oui. En bioéthique, on y pensait, mais déjà au niveau 3, mais dans les autres domaines, recherche en environnement, recherche en électronique, recherche en changement climatique, recherche en... D'accord. On y pensait beaucoup moins, hein, même... Oui, d'accord. La convergence NBIC a permis de rattraper un peu tout ça, puisque NBIC a mis la biologie, a importé les problèmes de biologie dans les autres problèmes, finalement. Donc finalement, les grandes questions de biologie, où là on savait qu'on pouvait changer l'homme, changer le génome de l'homme, se sont répercutées dans les autres domaines. Surtout avec les deux titres que vous connaissez, qu'on a évoqués ce matin, les performances humaines et changer les sociétés. Donc ces deux titres-là, changer les sociétés, le titre du rapport européen, il n'est pas tellement plus rassurant que changer les performances humaines, hein, d'ailleurs. Même s'il est plus, il a tiré les conséquences du premier titre et il a été un peu plus cosmétique, si je puis dire. Bon, je peux passer assez vite sur tout ça. Le fait que dans tous ces programmes-là, il y a des questions qui vont se poser sur l'influence de la société. On a tout dit pratiquement. Les nano-analyses, hein, si tout le monde sait qu'il y a un risque de tumeur à partir de nanogrammes de produits dangereux, est-ce que tout le monde ne va pas se sentir malade? Est-ce qu'on vivra mieux? Est-ce que, et je ne parle pas du déficit de la caisse d'assurance maladie. Sur les fossés avec les possibilités diagnostiques, je veux simplement dire que à quoi ça sert de diagnostiquer des maladies si on n'a pas de traitement, hein. Est-ce que simplement c'est dire vous allez être malade un jour, on ne peut rien faire pour vous, autant dire aux gens vous allez mourir un jour, c'est pareil. Sur l'homme augmenté, alors bien sûr, ça c'est le gros problème, c'est un problème de civilisation, parce que dopage, pour qui, pourquoi, homme augmenté veut dire homme diminué, donc... fracture de la société, fracture entre pays, entre ceux qui peuvent le payer et ceux qui ne peuvent pas se le payer. Et quand on dit, attention, ça va vieillir pour le vieillissement, si le dogme, c'est la performance et le dopage, on aura beau vieillir plus vieux, on sera toujours inférieur aux jeunes qui seront dopés. Et puis le cyborg et le transhumanisme, vous savez qu'il y a déjà un prof à Warwick qui a une puce sous la peau et qui communique avec sa femme qui a aussi une puce sous la peau. Donc, création de la vie, effectivement. Ça, c'est l'émergence de la complexité. C'est ce que Dupuis dit et qui était mentionné ce matin en disant maintenant, on ne vise pas à la maîtrise cartésienne de la nature, mais on vise à la non-maîtrise. On aura réussi si tout d'un coup, il émerge du système que je construis atome par atome, quelque chose que je n'ai pas prévu et qui, d'un coup, prend vie. Par exemple, cyborg, ce n'est pas à peine que je fasse. Vie privée, on en a beaucoup parlé. Environnement aussi. Remède pire que le mal, bien sûr. Ce que je veux dire là simplement, c'est qu'il y a deux façons de présenter les nanos, deux langages, à nouveau double langage des scientifiques, le progrès incrémental et la vision révolutionnaire. On a droit à tout. On a droit simplement au fait de dire, mais regardez, ça va simplement être un peu plus petit, un peu plus rapide, un peu plus propre. Et puis on a la vision révolutionnaire à long terme, proche de la science-fiction même à la limite. Les deux sont utiles, hein, les deux sont utiles. Parce qu'en voyant la deuxième, en affichant sur la deuxième, on peut se dire que le premier peut nous amener à la deuxième. Et puis, parce que le changement degré par degré, ça finit par arriver à un changement de nature. Le téléphone portable, ce n'est pas juste la civilisation avec le téléphone d'avant, plus le téléphone portable. C'est la société d'aujourd'hui avec le téléphone portable, c'est différent de la société d'hier avec le téléphone simplement plus pratique. Hein, on s'aperçoit que ça a changé les usages, et là les chercheurs n'y peuvent rien, ils ne peuvent pas inventer les usages que les utilisateurs inventeront. Mais danger d'ailleurs de téléphone portable, c'est plus dangereux que le couteau, hein. Et c'est beaucoup moins contrôlable que le couteau. Le couteau est contrôlable, hein, à la limite, on voit ce que c'est, on voit c'est dangereux, ça tue qu'une personne à la fois. Enfin, la nanoélectronique est vue comme une arme de destruction massive, parce que les terroristes pourront la voir, se parler entre eux, c'est disséminé, c'est invisible, c'est petit, c'est la caméra. Ça peut être une arme de destruction massive pour la société, comme les armes biologiques. Facebook, d'ailleurs, on a qualifié Facebook d'arme de distraction massive. Bon, je pars sur le fait qu'il faut effectivement s'attaquer aux deux. La science-fiction, c'est important, mais les chercheurs n'aiment pas en parler. Là aussi, double langage. Ah, science-fiction, j'ai inventé la vie, etc. Mais ah, vous faites de la science-fiction? Non, non, je suis dans mon laboratoire, seulement à regarder si ces deux molécules vont se toucher. Ils n'aiment pas en parler parce qu'ils ont peur de se tromper. Et puis, mais ça alimente leur nuit. Hein, c'est le rêve. Hein, c'est leur principe moteur. Principe de précaution, je ne vais pas en parler plus que ça, mais c'est absolument important et fondamental, et c'est rentré dans notre société, changement de société, ça. On a maintenant le principe de précaution qui, il ne faut pas le mettre à toutes les sauces, mais en tout cas, on a appris à aller à regarder plus vite, à regarder plus loin, à regarder devant. C'est maintenant l'avenir, en regardant vers l'avenir et vers les erreurs qui peuvent se produire, qu'on essaye de prendre des décisions, alors qu'avant, on regardait les erreurs du passé. Mais comme ça va plus vite, c'est comme dans une voiture, on va vite, il faut regarder loin devant, avec des inconvénients qu'on n'a pas le temps de regarder sur les côtés à ce moment-là. Effréner si on s'aperçoit qu'il y a des menaces incontrôlées. C'est-à-dire, soit on peut faire la prévention, et là, c'est une décision politique, soit on ne peut pas faire la prévention, on peut faire la précaution. Et éventuellement, ce n'est pas un principe d'immobilisme, mais c'est un principe de réorientation ou éventuellement de frein. Le clonage reproductif est le premier exemple de technique qui n'est pas encore mise au point, qu'on a décidé de ne pas mettre au point. Et qui a été... C'est un accord mondial. Je réponds à la question sur le monde, là. Est-ce qu'un débat national peut avoir quelque chose? On a pu se mettre d'accord au niveau mondial de ne pas faire de clonage reproductif humain. Ça veut dire que quand même les débats... Et ça, c'est parce qu'il y a des pays qui étaient moteurs. Hein. Donc le fait d'avoir un débat national n'empêche pas le fait de pouvoir quand même faire quelque chose de mondial. Et qu'on ne dise pas tout le temps, parce qu'on me le dit tout le temps, si on ne le fait pas ici, les Chinois le feront. On arrive à freiner la recherche. On fera un jour le clonage reproductif humain, mais on sera peut-être mûr pour le maîtriser, pour ne pas faire de bêtises, pour etc. Donc, que penser ? Simplement dire que les problèmes de nanotechnologie sont des problèmes qui touchent à toutes les technologies. Donc, c'est simplement un problème d'éthique d'avoir une technologie puissante, trop puissante peut-être avant qu'on la maîtrise, sans savoir ce qu'on veut faire de cette puissance, qui nous mène peut-être, nous, par le bout du nez, plutôt qu'on mène la technique, et que ces problèmes-là généraux sont des problèmes politique, à qui ça va profiter, fracture géopolitique ou pas, des problèmes économiques, est-ce qu'on va faire comme avec les OGM, c'est Monsanto qui va maîtriser des produits et tout le monde va être obligé de suivre. La réaction contre les OGM, c'est pas le fait que c'est dangereux d'ingérer un OGM, c'est le fait que ça change la structure de l'agriculture mondiale et que Monsanto ruine les paysans de Brésil ou indiens. C'est ça le problème. Donc quand l'Académie de médecine répond en disant « c'est pas dangereux », il ne répond pas à la question et il ne décrispe pas du tout le dialogue. Sociologique, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire, effectivement, futile par rapport à utile? Est-ce qu'il n'y a pas des besoins dans le monde meilleurs que d'avoir un iPhone qui va plus vite? Militaire, bien sûr, ça c'est une des grosses... les drones, etc. Et philosophique, c'est cette dépendance qui rend l'homme plus vulnérable. Si on dépend entièrement de la technique... Et est-ce que les machines vont décider à notre place? Elles n'ont pas besoin d'être plus performantes que nous. Aujourd'hui, il y a un tas de décisions. On dit, moi, je préfère me fier au système expert, à Google Médical, qu'à mon médecin du coin, parce qu'il se trompe moins. On le fait déjà avec les pilotes automatiques d'avion. Et le problème, c'est qu'un jour, on le fera avec tout, parce qu'on dira, la machine, c'est mieux. Et quand les objets... communiqueront entre eux, parce qu'on n'a pas parlé de l'Internet des objets, mais l'Internet des objets, c'est une conséquence aussi des nanos. Quand les objets communiqueront entre eux, et que votre frigidaire décidera de commander tel aliment parce que c'est mieux dans votre régime, et que vous direz, ah ben oui, c'est mieux que moi, il est mieux calculé, etc. Donc, perte de... Déjà, le GPS rend stupide. Hein. C'est un exercice, c'est un outil d'abêtissement. On en est dépendant. Tarzan savait s'orienter dans la jungle. Bon, voilà, bonne pratique pour la recherche. Évidemment, il faut des bonnes pratiques. Il faut la prévention des risques. Il faut que tout ça soit transparent. Il faut que la précaution, c'est le principe de précaution, réflexion sur la valeur et les fins. Et puis un débat public avec un dialogue. On verra tout ça dans le truc. Juste pour vous faire rire, c'est un Calvin et Hobbes sur la responsabilité des scientifiques vis-à-vis des conséquences. Calvin invente une machine à dupliquer. Il demande à son assistant de lancer la machine pendant qu'il sera à l'intérieur. L'autre a des doutes en disant « t'es sûr que tout ce que je fais ?» espèce d'idiot, tu gênes le progrès, fais-le, l'autre le fait. Et les ennuis commencent là. Et il se trouve qu'ils sont deux à l'intérieur de la machine, il s'est dupliqué et ils commencent à s'engueuler. Et c'est sur deux pages après ils sont cinq, ils font tous des bêtises, je sais pas comment c'est ça. Donc c'est le bordel. Donc... c'est un exemple. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais laisser la.
Merci. Merci beaucoup. Alors, un très très vaste programme finalement, avec beaucoup beaucoup de questions. Et donc, si je caricature pas, enfin j'espère pas, un certain nombre de points sur lesquels les chercheurs ont du mal à s'engager. Alors, donc par exemple, sur le sens métaphysique, comment faire évoluer les choses pour que les chercheurs s'engagent sur ces questions-là. On a parlé de confiance aussi, peut-être au niveau d'un travail entre le chercheur et la société civile. Je pense que là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a d'ailleurs des mouvements de réflexion sur ce dialogue science-société, notamment dans le milieu de la culture scientifique, où jusqu'à récemment, on avait une culture descendante, et aujourd'hui, on essaye de travailler davantage l'interaction. Moi, il y a un élément aussi qui m'interpelle, c'est avec l'exemple du téléphone portable, c'est le problème de l'imprédictibilité de certaines innovations ou résultats de recherche. Et enfin, quand vous dites les nanos touchent toutes les technologies, finalement, est-ce que l'emploi du terme nano lui-même a un sens ? Est-ce que finalement la pensée de Drexler n'était pas un cadeau empoisonné ou le comment dire ? Je perds mes mots, pardon. Bref, voilà, quelles sont les conséquences, les incidences de cet emploi généralisé du terme nano. Moi, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça, notamment en ayant examiné les procédés de fabrication des nano-objets. On voit que c'est de la physique, que c'est de la chimie, de la biochimie, etc. Et finalement, vous l'avez dit, il arrive que des chercheurs collent l'étiquette nano pour obtenir des financements, mais finalement, ce sont les mêmes travaux de recherche qu'ils faisaient auparavant. Donc aujourd'hui, on en est où à la fois quelles sont les pistes qui se dessinent en termes de réflexion éthique et de mise en œuvre. Donc nous avons Sophie Pellet qui peut nous en parler. Elle est chercheuse en sciences humaines et elle travaille pour un programme de recherche ANR qui s'appelle Nano 2E, E pour éthique et pour épistémologie. Et donc, vous avez une réflexion sur les évolutions possibles, enfin, un regard méta, je dirais, sur ce travail éthique au sein de la recherche. Donc, voilà, très, très intéressant, a priori.
Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, je voulais vous présenter rapidement ce qu'étaient les nanotechnologies, mais comme ça a été fait, c'est pas la peine, et comme ça, on ira plus vite. On a parlé tout à l'heure des propriétés de l'or, ou des propriétés de l'argent qui, à l'état nano, peut servir à des propriétés antibactériennes. Donc, quand le terme nanotechnologie, on a parlé beaucoup de ce qu'était le... Ah oui, pardon, non. Ce que je voulais aussi dire quand même, c'est que ce qui va poser problème pour l'éthique, c'est le fait que les nanotechnologies couvrent un champ très divers. Le fait que ça apparaisse à la fois dans diverses industries, comme l'industrie textile, l'industrie des cosmétiques, les BTP... l'industrie pharmaceutique et le domaine médical, ça pose des questions particulières dont on va parler plus tard. Dès le départ dès l'apparition en fait des nanotechnologies, les questions éthiques ont été associées à ces technologies et il y a eu comme une évidence en fait que les nanotechnologies allaient poser un certain nombre de questions éthiques. On peut citer ici le Comité consultatif national de l'éthique, qui pose vraiment comme une évidence le fait que ces technologies soulèvent des questions éthiques. C'est un champ qui est en pleine construction, comme en témoigne la création en 2007 de la revue Nanoethics, et champ qui est en pleine construction, comme je vais pouvoir vous le montrer. Alors, on a défini le côté nano du terme nanoéthique, mais... je vais revenir brièvement avec une définition qui est un petit peu différente de celle de Jacques Bordet, mais qui n'est pas du tout en opposition, de l'éthique. Et une définition très fondamentale, qu'est-ce que l'éthique ? Eh bien, c'est une discipline de la philosophie qui se propose d'énoncer des jugements normatifs ou moraux, et jugements qui vont être formulés en termes de bien ou de mal, de juste ou d'injuste, ou de ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. C'est une définition qui est volontairement générale. On va pouvoir préciser un petit peu le propos après. Alors, le débat sur les nanotechnologies d'un point de vue éthique doit être distingué d'une forme de non-débat qui oppose, alors c'est pour ça que j'ai appelé ça un contexte émotionnellement chargé, parce que ça entoure le débat sur l'éthique des nanotechnologies, mais ça ne le construit pas, opposition entre ce qu'on peut appeler les nanophiles et les nanophobes. Donc les nanophiles qui adorent les nanotechnologies, là vous voyez une image avec une sorte de surhomme que pourrait permettre de fabriquer les nanotechnologies, et les nanophobes, alors là c'est l'inverse, c'est l'homme déshumanisé, bon, c'est une image de cyborg. Alors ça, c'est des non-débats, pourquoi ? Parce que souvent, c'est des positions qui sont formulées de façon assez passionnelle, c'est des partis pris, et ça n'est pas une argumentation raisonnée, argumentée, type d'argumentation que se propose de faire la philosophie en comparaison de ces passions, si vous voulez, que ce soit du côté de l'admiration ou du côté de la crainte. Alors, si on continue dans ce que n'est pas la nanoéthique avant de passer à ce qu'elle est, la nanoéthique doit se distinguer du discours qui permet à une société d'accepter ou de rejeter les nanotechnologies. C'est-à-dire que le discours politique ou public qui va être fabriqué par une société autour des nanotechnologies peut parfois reposer sur un raisonnement éthique, mais ne doit pas se confondre avec la réflexion éthique. Donc moi, par exemple, je ne suis pas là pour vous vendre ou pour discréditer les nanotechnologies, mais plutôt pour essayer de susciter des questions, enfin de vous poser ou de vous amener à poser des questions sur ces technologies. D'autre part, la nanoéthique diffère des réglementations légales et conventionnelles. Donc bien que les règles de droit puissent s'appuyer sur des raisons qui sont éthiques, ce qui est licite n'est pas nécessairement moral et inversement. Et enfin, l'éthique diffère, selon moi, d'une analyse coût-bénéfice. Alors pourquoi ? On va préciser un peu. L'analyse coût-bénéfice, on en a beaucoup parlé, c'est le fait d'anticiper des risques, de prévoir et surtout d'évaluer des risques potentiels et de les comparer aux bénéfices attendus des nanotechnologies. Donc risques environnementaux, sanitaires, sociétaux. Mais cette évaluation des risques, et on l'a bien vu avec l'intervention de Dominique Masset, repose beaucoup sur la science, sur le travail scientifique. C'est aux scientifiques d'évaluer les risques potentiels. L'éthique peut intervenir. Alors, pardon, l'exemple de la toxicité est tout à fait probant, puisque lorsqu'on s'interroge sur les risques potentiels des nanoparticules d'argent, on suppose bien que c'est au travail scientifique de trancher la question. Quels sont ces risques précisément ? Est-ce qu'il y a des seuils ? Et ainsi de suite. Alors là, l'éthique peut intervenir en amont pour essayer de souligner le fait qu'il faille absolument se poser la question de ces risques. Donc là, l'éthique peut dire les scientifiques doivent ou les industriels doivent prendre en compte les risques avant de développer une technologie. Elle peut intervenir en aval pour dire compte tenu de ces risques qui sont connus, voilà le choix qu'on vous propose, c'est-à-dire est-ce qu'on trouve qu'il est moralement souhaitable ou au contraire qu'il n'est pas moralement souhaitable de développer telle ou telle technologie. Mais les incursions de l'éthique à ces deux endroits ne couvrent pas tout le champ de la réflexion éthique. C'est des questions qui sont absolument essentielles, mais ça ne sont pas les seules questions. Alors si on essaye maintenant de définir ce qu'est la nanoéthique, il y a plusieurs approches. Alors c'est une vision un petit peu synthétique, forcément un peu restrictive, mais qui permet de confronter plusieurs approches. Alors je vais en distinguer trois ici. La première que j'ai appelée l'approche par les impacts. La deuxième que j'ai appelée l'éthique des réponses toutes faites. Alors je vais vous présenter ces deux approches et je vais essayer d'en présenter quelques limites. Et puis enfin, je vous présenterai l'approche que je développe au sein du laboratoire auquel j'appartiens et qu'on a appelée éthique des questions à construire. Alors l'évaluation par les impacts, c'est le fait donc ça a été une étape, et c'est encore une étape absolument nécessaire. Hein. Mon but n'est pas de dire que c'est complètement obsolète, mais qu'on peut éventuellement apporter quelque chose de plus. Alors l'évaluation par les impacts, je vais passer rapidement, c'est le fait de se demander si le développement des nanotechnologies par la miniaturisation, le stockage des données ne remet pas en cause certaines libertés personnelles. J'ai fait une liste là très rapide qui n'est pas du tout exhaustive, on a vu plein d'autres exemples au cours des précédentes interventions. Est-ce que les nanotechnologies ne soulèvent pas ou ne présentent-elles pas des menaces pour la santé, pour l'environnement ? Enfin, est-ce qu'elles ne posent pas des problèmes de justice ? C'est-à-dire, est-ce que seule une élite, donc ce qui est parfois appelé la fracture nano, est-ce que seule une élite aurait accès aux bienfaits des nanotechnologies ou est-ce que c'est quelque chose qui pourra se diffuser à l'ensemble de la population ? Alors, ces questions sont absolument essentielles, mais elles présentent quelques limites. Et tout d'abord, il y a eu peu de questionnements sur la manière dont on allait évaluer les impacts. Est-ce que, par exemple, les impacts vont être uniquement évalués en termes monétaires ? On va traduire en termes monétaires l'ensemble des coûts et des bienfaits. Donc, on va se demander quel est le montant des dommages éventuels, par exemple, des dommages sanitaires ou environnementaux. Quels sont, en termes monétaires, les gains qu'on pourrait, par exemple, en réduction du budget de la santé, si la lutte contre le cancer, par exemple, pouvait s'améliorer beaucoup. Mais là, on traduit un certain nombre d'avancées ou de menaces en termes monétaires et on essaie de les comparer. Ou alors, au contraire, est-ce qu'il faut essayer d'évaluer dans des dimensions qui soient suffisamment larges, donc avoir des outils d'évaluation qui soient pluridimensionnels, qui puissent prendre en compte de nombreuses données. Et par exemple, quel type de données ça pourrait être ? Eh bien, est-ce que les nanotechnologies peuvent permettre de produire ou de construire des systèmes de production plus ou moins polluants ? Est-ce que ça permet d'aboutir à des soins plus ou moins efficaces ? Est-ce que ça stimule le processus démocratique ou au contraire, est-ce que les nanotechnologies vont inhiber les démocraties ? Donc là, la question de la mesure, pour l'instant, n'a pas été, la mesure des impacts, hein, l'évaluation des impacts, n'a pas été complètement posée. D'autre part, cette approche par les impacts, elle s'apparente beaucoup à l'analyse coût-bénéfice. L'idée, c'est qu'il faut essayer d'évaluer les dégâts. Et là encore, en amont, on se demande, on souligne le fait qu'il faille absolument prendre en compte ces impacts, mais ça, on ne va pas au-delà. Et d'autre part, c'est une approche qui repose beaucoup sur des conclusions hypothétiques, sur des scénarios du futur, c'est-à-dire, par exemple, le mouvement transhumaniste, est-ce qu'il est bon que l'homme soit amélioré ou pas ? Et là, on peut se demander si, finalement, l'éthique ne devrait pas être une éthique de la science en train de se faire. Plutôt que d'imaginer dans le futur ce qui va se passer avec les nanotechnologies, est-ce qu'on ne pourrait pas, maintenant, observer les pratiques scientifiques et établir certaines conclusions normatives à ce sujet-là ? Alors, je vais vous présenter plus loin comment est-ce que ça peut se faire. Alors, je vais aller vite. L'éthique des réponses toutes faites. Bon, là, il s'agit en fait c'est des méthodes qui se disent que les problèmes soulevés par les nanotechnologies se réduisent à des problèmes d'information. Donc, une fois que les réponses scientifiques auront été apportées aux problèmes soulevés par les nanotechnologies, c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaîtra beaucoup plus les éventuels effets de ces technologies, alors les décisions éthiques devraient couler de source. Si on connaît parfaitement le risque, alors on peut prendre une décision quant au fait de développer ou non telle ou telle technologie de façon très aisée. Le problème de ces approches, c'est que l'éthicien devient une sorte d'ingénieur du moral. Ça n'est qu'un problème d'information. C'est finalement aux scientifiques, d'ailleurs, de trancher ce problème d'information. Et l'éthicien arrive après pour presque dans une étape qui devient presque inutile, puisqu'une fois qu'on a dit, si par exemple on arrive à établir des seuils en disant, voilà, il y a tel pourcentage de risque dans l'utilisation de tel ou tel produit qui nanotechnologie, si le risque est au-delà d'un certain seuil, alors on décide de ne pas développer cette technologie. Si le risque est en deçà, on y va. Bon, là, l'éthicien, finalement, sa marge de manœuvre, elle est très étroite. Il n'a pas grand-chose à faire. Et puis, le deuxième problème, c'est que souvent, il y a eu un plaquage des résultats des éthiques appliquées, des autres éthiques appliquées, de la bioéthique, par exemple, de l'éthique environnementale, qui sont plaquées sur les nanotechnologies. Or, comme elles couvrent un champ très divers, très vaste, c'est difficile d'utiliser les résultats de la bioéthique, de l'éthique des affaires, de l'éthique des communications et de l'éthique environnementale pour des technologies qui finalement couvrent tous ces domaines et ne s'y réduisent jamais. Donc c'est probablement ces conclusions des éthiques appliquées peuvent être utilisées comme éléments à incorporer et transformer, mais on ne peut pas les appliquer telles quelles. Alors qu'est-ce qu'on... Je passe là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, comme approche différente ? Eh bien, le premier élément qui est essentiel, c'est tout d'abord comment poser les questions liées aux nanoéthiques. Finalement, le fait de poser des questions, c'est une manière d'appréhender le réel. Et cette manière d'appréhender le réel, elle a une influence ensuite sur le type de solution qu'on va proposer. Et donc, si on ne se pose pas la question au départ de savoir quelle question on va se poser, on fabrique déjà... d'une certaine manière, la réponse. Donc déjà, quelles sont les questions et comment est-ce qu'on doit se les poser ? Alors, par exemple, nous, on a établi cette question qui serait la question nanoéthique par excellence. Avons-nous des raisons morales de promouvoir, d'interdire ou d'autoriser, sous certaines conditions, les nanotechnologies ? Une fois qu'on peut poser cette question, alors j'ai appelé ça un chantier nanoéthique parce que c'est vraiment en pleine construction, comment est-ce qu'on peut s'éloigner de l'évaluation qui serait uniquement fondée sur des scénarios du futur et comment aller vers une éthique qui soit une éthique de terrain. Et deuxièmement, comment prendre en compte la diversité des domaines touchés par les nanotechnologies. Alors ce qu'on propose, c'est une réflexion qui est fondée sur ce terme d'équilibre réfléchi qui est emprunté au philosophe John Rawls, où on met en évidence les valeurs des scientifiques, leurs croyances métaphysiques, leurs rêves les plus secrets, du point de vue de ce qu'il voit derrière les nanotechnologies, pour ensuite proposer, et pas uniquement des scientifiques d'ailleurs, comme on va le voir, et proposer ensuite une évaluation morale de ces représentations morales qui influencent finalement la recherche. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'à gauche, on a les représentations morales des scientifiques qui influencent les questions qu'ils se posent. Pourquoi tel ou tel scientifique, c'est plutôt orienté vers la recherche contre le cancer ou vers la physique nucléaire. Il y a évidemment des raisons sociologiques, culturelles, personnelles, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons morales, parfois, qui influencent ces choix, qui vont influencer les questions et donc les types de réponses. Et une fois qu'on arrive à mettre au jour ces représentations morales, donc ça suppose que la technologie n'est pas toujours complètement neutre, et ça veut dire que une technologie, donc on a vu tout à l'heure que si on considère que la technologie est neutre, c'est seule l'utilisation qui est chargée éthiquement, et donc on peut utiliser une technologie à bon ou à mauvais escient, mais nous ce qu'on imagine c'est que les technologies ne sont jamais neutres complètement. Alors ça ne veut pas dire que dans leur essence elles contiennent quelque chose d'absolument destructeur pour l'humanité ou au contraire un progrès formidable, mais ça veut dire que une technologie, elle naît aussi des représentations morales des scientifiques qui l'ont construite. Et une fois qu'on a mis au jour ces représentations morales, alors le travail du philosophe, c'est d'évaluer ces représentations morales pour produire de nouvelles normes. Mais on ne s'arrête pas là, parce que là, ça voudrait dire que le philosophe a une sorte de position comme ça, absolument suprême et hiérarchique sur la société. Non, au contraire, ces nouvelles normes vont influencer à nouveau, ou on espère influencer les scientifiques, les usagers, les décideurs. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir évaluer à nouveau ces nouvelles représentations morales intuitives, et ça va former comme ça un processus dynamique où on n'intègre pas uniquement les scientifiques, mais aussi les scientifiques, là je les ai appelés les designers. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui construisent les technologies. Mais il y a aussi les usagers, les citoyens, et les décideurs, le politique. Et donc on espère aboutir comme ça à une sorte, enfin en tout cas, que ces différentes entités discutent pour aboutir à une sorte de jugement bien pesé avec qui ait pu prendre en compte les différentes critiques des différents acteurs et une sorte comme ça de consensus qu'on pourrait ensuite utiliser au niveau politique. Alors en conclusion, la nanoéthique, c'est un champ qui est en pleine construction, qui est en plein essor exactement comme sont les nanotechnologies. Et c'est pour ça que la première étape ici, j'ai peut-être soulevé plus de questions qu'apporter de réponses, mais parce que le fait de poser des questions est une étape essentielle dans la démarche éthique et philosophique. Voilà, je vous remercie. Donc ça, c'est le travail qui a été fait par le laboratoire Nano 2E. Voilà, je vous remercie de votre attention.
vous avez des questions ou Jacques, est-ce que vous voulez réagir?
Peut-être laisser la salle, ouais. La salle s'exprimer parce qu'il reste un petit quart d'heure.
Merci à tous les deux, en tout cas, à tous les quatre.
J'ai plus un peu une réflexion qu'une question, mais je voulais revenir un petit peu sur le préambule que M. Bordet a pu faire et puis que vous avez, enfin que M. Bordet et toi également fait, pour Litio. Juste sur PMO, voilà, sans vouloir faire le procès hein, de PMO, mais c'est vrai qu'en préambule, tous les deux, bon, vous avez un petit peu avancé le fait bon, que PMO avait finalement provoqué le débat, médiatisé, ce qu'on ne peut pas leur retirer. C'est vrai qu'ils ont intéressé, on va dire, les médias. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez aussi terminé un petit peu sur le fait que finalement, ce qu'on a besoin, c'est un débat public avec un vrai dialogue. Ça, bon, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont allés vers un débat public avec un vrai dialogue. Puisqu'en fait, bon, dialoguer, c'est voilà, se faire entendre, mais c'est aussi écouter finalement les autres. Hein. On ne peut pas vraiment dire que quand PMO était là, qu'il y a eu vraiment un dialogue avec un échange. Il y a quand même eu plus de dialogue quand PMO était peu ou pas présent dans les débats publics. Voilà, parce que c'est vrai que le début était quand même assez... voilà. Je pense que bon, c'est plus facile de discuter comme on le fait aujourd'hui que de discuter dans des vapeurs démoniaques ou autre. Quoi. Voilà.
Justement, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que l'intérêt d'un débat public est plus... est-ce que l'intérêt ne porte pas sur la communication publique plus que le dialogue? Est-ce que le dialogue entre experts, scientifiques, il existe tous les jours, il se fait tous les jours, les pour, les contre? Est-ce que le débat public ne porte pas plutôt sur l'intérêt de communiquer au grand public les informations, les avancées, les avis? Alors, c'est là, en fait, justement, où la médiatisation est bien plus importante que le débat proprement dit. Voilà.
Pour que ce soit médiatisé, il faut qu'il y ait débat et information avant.
Ça participe.
Avant, il y avait débat. Enfin, je reprends ce que vous avez dit. Il y avait débat, mais aucune médiatisation. Et la médiatisation est venue à la suite d'événements malheureux. C'est sûr qu'ils ont privé le débat. Bon, mais il faudrait trouver un intermédiaire.
C'est le problème de l'intérêt que peuvent porter les journalistes en général aux questions scientifiques en général, M. Bordet, de toute façon, aussi.
Je pense que bon, les médias, les journaux, c'est un intermédiaire important, bien sûr, mais essayons de penser le dialogue directement entre, dans un débat comme ici, bien qu'on a des médiateurs ici aussi, mais le dialogue entre scientifiques et public. Le problème, c'est qu'il était à sens unique, justement. Et les chercheurs n'écoutaient pas... Et l'important de ces débats, ça a été que les chercheurs, enfin, pas forcément le débat public, mais même Viagra, que les chercheurs écoutent la question que posent les... Et la question n'étant pas comment ça marche, la question est pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous cherchez là-dessus? C'est-à-dire c'est une première façon de faire ce que Sophie explique avec la philosophie. Sophie parle d'accouchement des esprits des scientifiques, d'une certaine façon, de trouver leur valeur cachée, philosophique, dont ils n'ont pas conscience forcément eux-mêmes. Et là, le public essaye de dévoiler les valeurs sociologiques cachées des chercheurs qui ne sont pas forcément conscients qu'ils ont pris dans un système économique qui se travaille là-dessus parce qu'il y avait de l'argent uniquement pour des questions circonstancielles. Et sans se poser la question, mais est-ce que j'ai pas mieux à faire avec toute la formation que j'ai eue? Moi, les premiers chercheurs avec lesquels j'ai discuté dans les nanos à Grenoble il y a 10-15 ans, quand on leur demandait pourquoi ils cherchaient sur ce sujet-là, un sujet fondamental de micro-électronique, de nano-électronique, bah, c'était parce qu'il y avait un contrat, il y avait de l'argent, et ça allait plus petit, etc. À quoi ça allait servir? C'est pas mon problème. Du moment qu'il y a de l'argent, qu'un industriel me le demande, c'est très bien. Est-ce que vous ne feriez pas mieux d'utiliser votre formation, votre connaissance, vos 10 ans, votre intelligence à autre chose qu'à ça? Je n'y ai pas pensé. Et c'est pareil dans le domaine des neurosciences, c'est pareil dans pas mal de domaines. Et parfois, ils ont des imaginaires, mais qu'ils étouffent aussi complètement en pensant non, il faut que je sois pragmatique. Donc, il y a une façon de les renvoyer quand même face à leurs responsabilités vis-à-vis de la société qui finalement les paye. qui est c'est cette question dans l'autre sens qui est importante. Bien sûr que les médias aident à faire ça aussi, mais indépendamment des médias, ce dialogue dans l'autre sens est absolument fondamental. On en a besoin maintenant.
J'apporte un complément de réponse. Effectivement, ce sont deux problèmes différents. La question de la médiatisation est importante aussi, c'est-à-dire que le citoyen doit avoir les moyens de se documenter avant de pouvoir venir rencontrer le chercheur, qu'il a un minimum de base pour faciliter le dialogue, en quelque sorte. Qu'est-ce que je voulais dire pour ça? Moi j'ai été étonné, je crois que je l'ai dit, le fait que les médias ne s'emparent pas du sujet pendant le débat public. Et on a des chaînes de télévision publique. Pourquoi est-ce qu'on a investi 3 millions d'euros, parce que le débat public national a coûté 3 millions et quelques, pourquoi est-ce qu'on n'a pas investi une part de ce budget dans, justement, de la production de programmes ou de la diffusion de programmes sur les chaînes publiques? Voilà. Ça, c'est une réflexion. Une question.
C'est valable pour tous les sujets scientifiques.
Oui.
De toute façon, malheureusement, c'était intéressant vos deux interventions parce que il y a une intervention générationnelle par rapport à vos recherches et j'ai trouvé ça passionnant. Monsieur Bordet, vous avez vraiment fait la synthèse de ce que c'est que l'éthique et vous avez dit avec votre franc-parler aussi. Comment la science pouvait être considérée par la société et qui avait besoin de médiation, etc. Mademoiselle Pelé, là, nanoéthique, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très, qui est impressionnant parce que on parle d'éthique maintenant et il est vrai que l'éthique on la met partout. Hein. Donc on a eu des journées d'études, etc. qui ont fait penser à ça sur l'expérimentation animale, etc. Et vous avez très bien répondu à des questions aussi qui sont assez énervantes, Monsieur Bordet. C'est les Chinois vont le faire, donc dépêchons-nous de le faire. Hein, donc il y a grand danger parce que les autres pays vont s'en emparer. Donc après tout, nous, il faut qu'on se dépêche. Voilà. Donc il y a le rang mondial, etc. Sur les éternelles questions qu'on pose dans les questions de sciences et sociétés, qui peuvent aussi interpeller les citoyens en se disant bon après tout, il faut qu'on soit dans la course. Alors laissons la science se faire en allant un petit peu dans le mur. Mais nanoéthique, alors on pose des questions d'éthique quelquefois aussi pour mettre un calque et même calfeutrer des sujets. Donc c'est pas ce que vous comptez faire. Mais il est vrai qu'on voit que l'éthique quelquefois. Non, mais ça, c'est un petit peu de la provocation que je fais, c'est pour nous réveiller avant de déjeuner, que l'éthique se met à toutes les sauces. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus, hein, on met l'éthique à toutes les sauces, parce que, justement, poser les questions éthiques ne va pas empêcher les choses de se faire. Donc, c'est pour ça que je pose cette question. Je dis, quel est le côté, après, pragmatique, si vous voulez, de votre pratique, sachant que tout le monde ne va pas aller lire le livre très très bien qu'on doit avoir chez nous sur l'éthique nanoéthique, et je pense que le public ici ne savait pas que la nanoéthique existait, et ce n'est pas pour rien que ça existe de toute façon. Donc il y a des recherches qui sont faites aussi sur ce sujet par les sciences humaines, donc c'est toujours les sciences humaines qui pensent à la science, ça, je suis désolée de le dire, mais malheureusement c'est très souvent le cas, hein, ce sont les sciences humaines, les philosophes qui pensent à la science, et lors des journées qu'on a eues aussi ici sur la bioéthique, etc., et sur l'éthique, on a été très étonnés d'entendre des étudiants nous dire, écoutez, là c'est sur l'expérimentation animale, bon écoutez, on n'a jamais été formé à l'éthique, on fait de l'expérimentation, on ne sait pas ce que c'est de l'éthique, on ne sait pas ce que c'est de la bioéthique, et quand vous avez parlé de ces sujets, quid de l'enseignement de l'éthique? Ça, c'est un sujet primordial. Ça se passe à l'école. Donc voilà, un petit peu, quelques questions comme ça que je jette.
Sur la question de qu'est-ce qu'on propose, est-ce qu'il y a un versant un peu plus pragmatique à cette réflexion? Oui. Là, pour l'instant, c'est complètement programmatique puisque c'est un champ de recherche qu'on a lancé. Mais l'aboutissement de l'équilibre réfléchi, c'est bien d'avoir un certain nombre de normes qui ensuite, alors ça pose le problème ensuite du dialogue entre les philosophes et les pouvoirs publics, c'est certain. Mais on espère quand même pouvoir peser ensuite sur le débat, aboutir à un certain nombre de normes et peser ensuite sur le débat à ce moment-là. Là, ce qui change, c'est la méthode de production des normes.
Alors, deux choses. La première, c'est comme dans la question qui a été posée tout à l'heure sur finalement, est-ce que dans le débat public, ce qu'il faudrait privilégier, ce ne serait pas la communication d'un certain nombre d'informations au public. Ce sont des positions qu'on voit, enfin, moi j'ai été pendant un an et demi mise à disposition du groupe de travail de l'OCDE sur les nanos, trois quarts des pays dans le monde considèrent que débat public c'est information des masses et que ça s'arrête là. Bon, il se trouve qu'en France on a déjà des sociologues qui travaillent depuis un certain nombre d'années sur ces questions-là et qu'on a essayé d'intégrer les leçons de ce qu'ils nous ont appris et qu'on pense que le public, en tant que non-sachant, peut aussi répondre avec son savoir à lui, qui n'est pas le savoir scientifique, à un certain nombre de questions et d'enjeux que soulèvent les nouvelles technologies. Alors c'est très bien expliqué, par exemple, en ce qui concerne la question de la gestion des déchets nucléaires par Calon, qui explique qu'une des questions qui se posait et auxquelles n'avait pas pensé, à laquelle n'avaient absolument pas pensé et les scientifiques et les pouvoirs publics dans ce débat-là, c'était celle qui a été apportée par les viticulteurs du coin où on se proposait d'enfouir les déchets nucléaires en ayant pensé à est-ce qu'on est dans la bonne couche d'argile, est-ce que ça va... On avait vraiment pensé scientifiquement la question. Et les viticulteurs arrivaient en disant « Mais nous, on s'en fout que ça sorte, que ça sorte pas. Simplement, à partir du moment où le public va savoir que c'est enfoui en dessous de mon champ, je ne vendrai plus mon vin. » Et c'est une vraie question sociale. Et alors, pour le coup, une vraie question politique. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans tout ce qui a été dit dans cette table ronde, c'est que quand même, à un moment ou à un autre, on attend du politique qui s'empare un tout petit peu, soit des questions éthiques et des jugements qu'on va émettre à la fin du cycle, soit des questions de manière plus générale. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, à la fois dans le débat public et à l'heure actuelle encore, le politique, moi, je le trouve singulièrement absent. C'est-à-dire que dans le débat public, on a parlé des cahiers d'acteurs, les syndicats se sont mobilisés fort tard, hein, quand même, sur le sujet des nanos. Il a fallu attendre longtemps avant qu'on ait une mobilisation syndicale sur ces questions-là. Les partis politiques, il y en a eu un. C'est les Verts qui ont fait un cahier d'acteurs. Et ça a été le seul parti qui s'est exprimé. Or, les questions scientifiques et technologiques, ce sont aussi des questions politiques. Alors, c'est vrai que moi, je le vois avec le regard du juriste. Et les décisions des politiques, elles vont avoir un impact sur ce que je manipule, moi, en tant que chercheur en droit. Hein. Mais je les trouve quand même singulièrement absents à l'heure actuelle. Et c'est vrai que ce joli triangle-là, j'ai l'impression qu'il se parle un peu à lui tout seul. Il n'y a pas d'interlocuteur, en face. C'est quand même... Et on le voit, d'ailleurs, à l'issue du débat public, à mon avis, ce qu'on peut le plus regretter à l'issue de ce débat public, c'est l'absence de réponse. Hein. Du maître d'ouvrage. Bon, on peut grandement penser, je suis assez d'accord avec vous sur ce point-là, pas sur tout, mais sur ce point-là en tout cas, qui ne posait pas vraiment de questions non plus. Il est arrivé en disant, bon, il faut que je fasse un débat public, parce que ça se fait. Voilà, il y a des effets de mode aussi, hein, dans les questions de gouvernance, hein, mais il ne posait pas vraiment de questions. Ceci étant, il ne donne absolument pas de réponse, et ça, parfaitement en contradiction avec le texte de loi. C'est-à-dire qu'il aurait dû se prononcer déjà en réponse au rapport de la commission particulière du débat public, et il ne l'a pas fait.
Oui, si le public veut s'adresser maintenant directement aux scientifiques, c'est parce qu'il, j'ai dit, il n'avait pas les bonnes réponses de la part des industriels, mais il n'a pas les bonnes réponses de la part des politiques non plus. Les politiques n'ont pas de vision à long terme. C'est leur élection proche qui compte. Alors, il n'y a pas eu de réponse du gouvernement encore, parce que d'abord, il y avait sept ministères qui étaient poseurs de questions au départ, mais dans le maître d'ouvrage. Donc c'est déjà trop éparpillé. En plus, il y a eu le remaniement depuis, même si c'est un mini-remaniement. Je crois que Lagarde a dit, depuis le remaniement, on a fait un virage à 360 degrés. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. quand même. Mais donc, encore une fois, cette caisse de résonance qui a permis de faire toute une liste des questions. Quand même, le rapport final de Bergugno, qui était le président de la commission particulière du débat public, eh bien finalement, il a fait une liste des questions, il a écouté tout le monde de façon neutre. C'est le rôle de cette commission du débat public, c'est d'être une caisse de résonance de tout ce qu'ils entendent et de le restituer d'une façon neutre. Et ça a été fait d'une façon honnête, je pense. Il n'y a rien à dire. Mais encore une fois, c'est pas les millions de la télévision, c'est pas le fait de faire la vulgarisation, c'est pas le fait d'expliquer, c'est pas de l'enseignement, c'est au contraire le fait que le public, comme tu l'as dit, Stéphanie, le public qui même n'a aucune idée scientifique, peut poser une question non scientifique, de bon sens sur son avenir, et comprendre très bien, il n'y a pas besoin de savoir si la télévision fonctionne au gaz ou à l'électricité pour voir, savoir si on a envie d'avoir une chez soi.
Même réflexion sur la norme juridique, j'y dirais. Hein. Le cahier d'acteurs de sciences et démocratie dit, tiens, une des premières réglementations qui va arriver, c'est de mettre l'étiquette nano sur les produits cosmétiques. Et oui, mais le consommateur, ça va lui parler ? Est-ce que ça a un sens ?
Hein ?
Voilà. Oui, d'une part, c'est tout petit. Mais en plus, voilà, ça ne reflète pas la diversité des réalités derrière le terme nano. Donc ça n'a pas vraiment de sens, cette réglementation. Et ça, c'est du pur bon sens. Enfin, je crois.
Je voulais juste rajouter un tout petit mot, mais pour aller tout à fait dans votre sens. Une explication au fait qu'il y ait ce silence pour le moment des politiques aussi, je crois, c'est la simple complexité des problèmes et la difficulté, pour le coup, de se situer au niveau national face aux enjeux et aux agendas européens en premier lieu. Hein, et, bon, alors peut-être, on peut discuter, mais enfin, il me semble que la politique française, à de nombreux niveaux, est ficelée de façon tellement compliqué à tout un tas de légiférer au niveau français ne peut pas se faire sans légiférer d'un certain point de vue au niveau européen, hein, premier lieu, etc. Mais bon, ouais, et juste ce que je voulais dire, mais qui va tout à fait dans le sens de ce que vous avez dit, c'est de toute façon l'effacement progressif de toutes les frontières aussi auxquelles nous portent les nanotechnologies et des frontières substantielles traditionnelles, je dirais, entre ce que doit être pour le coup le scientifique, ce que doit être l'éthicien, ce que doit être le simple citoyen, etc. Et de ce point de vue-là, on reste prisonnier de schémas. La façon dont, pendant le débat public, on a décidé de consacrer les quelques dernières réunions au thème gouvernance et éthique, en quelque sorte, avec l'idée que jusqu'à présent, nous n'avions pas fait d'éthique, rien que ça, c'est à repenser. Le simple citoyen, en venant demander des choses évidentes comme de pouvoir vivre correctement, de ne pas être empoisonné par ce qu'il mange, etc., fait de l'éthique, il faut le reconnaître. Je pense qu'il faut prendre conscience de la nécessité de ces changements de paradigme très importants pour avancer sur la question des nanos. Tout en sachant en plus, alors peut-être, hein, peut-être que l'homme augmenté dans quelques temps, dans quelques décennies, dans quelques centenaires, sera une évidence reconnue, au même titre qu'il nous avait bien fallu admettre à un certain moment que la Terre tournait autour du Soleil, et pas l'inverse. Un peu provocateur, mais ce mouvement-là doit être accompagné et partagé par tous, me semble-t-il.
C'est-à-dire qu'un changement de civilisation, c'est pas un risque. C'est quelque chose, ça peut pas être appréhendé comme un risque. On peut pas mettre un risque, il y a deux facteurs. Il y a le dommage et la probabilité d'exposition. Et il faut connaître ces deux facteurs-là pour pouvoir faire le calcul coût-bénéfice. Et c'est parce qu'on ne peut pas le faire, d'ailleurs, que les assureurs ne veulent pas assurer les sociétés de nanotechnologie parce qu'ils disent on n'a pas suffisamment d'éléments sur ces deux facteurs-là. Alors, le changement de civilisation, d'abord, on sait même pas, ça va arriver qu'une fois, il n'y a pas de probabilité d'événement. Et ensuite, on ne peut même pas dire si c'est un danger, un dommage ou un bienfait. C'est ce qu'on appelle de l'ambiguïté. C'est un événement qui sera ambigu. Donc il ne faut absolument pas confondre éthique et risque. L'éthique du risque, c'est simplement, effectivement, comme l'a dit Sophie, c'est il faut être transparent, il faut que tous les calculs soient faits, les études soient faites pour qu'on puisse faire ce calcul coût-bénéfice. Et puis après ça, on peut faire la prévention, c'est-à-dire le politique va faire la prévention, et il va faire la prévention en étant aussi honnête, c'est-à-dire en disant j'admets qu'il y ait tant de morts parce qu'il y a un autre bienfait qui va contrebalancer ce nombre de morts, qui va être soit des vies sauvées, soit un bienfait économique, parce qu'on met un prix sur la vie humaine. Mais c'est vrai que l'amiante, c'est à contrebalancer avec le nombre d'incendies qui est évité par l'amiante. Et donc, il y a là un calcul de coût-bénéfice quand on sait le nombre d'événements et le prix de chaque dommage individuel. Et après, si on ne sait pas l'un des deux facteurs, ben c'est le principe de précaution. On fait des études de façon à pouvoir se rabattre sur le calcul de risque. Et puis, quand on est dans un système où on ne pourra pas de toute façon se rabattre sur le principe de prévention, c'est-à-dire faire un calcul de coût-bénéfice, on est dans un problème d'éthique qui est tout autre, qui est effectivement un événement qui va arriver une fois. Et ça peut être un changement de civilisation. Et ça, c'est aussi Dupuis qui dit qu'il ne faut absolument pas confondre éthique et risque. Confondre éthique et risque, c'est aussi grave que pour un physicien confondre masse et poids.
Oui, et plus généralement, c'est en train de transformer complètement la manière de penser la science au sein de la société. Peut-être que ces questions, elles vont continuer à se poser sur les 200 prochaines années, et peut-être. Et donc, la manière de faire de l'éthique, justement, doit s'adapter au fait qu'il y a de très grandes inconnues. Et d'une certaine manière, penser des questions peut-être plus générales, on les a évoquées, mais. Bon, la place de la science et de la société, la distinction entre naturel et artificiel, en quoi les nanoéthiques transforment cette distinction classique entre ce qui est donné par la nature et ce qui est transformé par l'homme, dès lors que ce qui est manipulé, c'est des molécules qui sont naturelles, hein. Est-ce que ça ne repose pas ces questions? La manipulation du vivant par l'homme, bon, ça c'est des questions qui avaient déjà été posées par, notamment par les OGM, mais on en a parlé un tout petit peu, mais les questions de la dignité humaine, comment continuer à penser la dignité humaine avec les possibilités d'augmentation que ça pose. Et ça, c'est des grandes questions qui ne se limitent pas du tout à l'analyse coût-bénéfice, qui la dépasse très largement, et que peut-être que les technologies à venir qu'on n'a pas encore produites seront amenées à se poser exactement dans ces termes. Donc la nanoéthique, finalement, c'est un champ en construction, mais qui sera peut-être... appliqué à d'autres domaines.
Stéphanie, le mot de la fin.
Vous me prenez un peu de cours.
FIM.
Oui, pour la fin, FIM, comme le suggère mon voisin.
On mange des nanos.
Voilà, on va s'arrêter là.
On se retrouve. Merci à tous. On se retrouve à